Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 5 novembre 2023. Et cherchez pas, nous sommes dimanche 5 novembre 2023. J'ai perdu le truc de Sunday, donc nous sommes dimanche, je vous rassure. Il fait froid, il pleut, c'est l'automne. Mais la bonne nouvelle, c'est que les marchés ont finalement réussi à rebondir. Merci, merci à la Fed qui a su nous parler comme on avait envie et qu'elle nous parle. Alors, il n'y a rien qui a changé fondamentalement. Les taux n'ont pas monté ni baissé. Il n'a pas laissé entendre qu'il allait baisser les taux avant 2025. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faudra retenir surtout, c'est que on est soulagé parce qu'il y a l'air d'avoir un semblant d'amélioration. Donc oui, si on reprend ce qui s'est passé la semaine dernière, eh bien on va commencer tout d'abord par effectivement la Fed, parce que c'est l'axe central de la semaine dernière. Alors grosso modo, oui, vous l'avez vu, on en a parlé depuis mercredi soir, jeudi et vendredi y compris, eh bien Monsieur Powell n'a rien fait, mais dans son discours et dans sa manière de s'exprimer, finalement il a laissé entendre que il continuait à surveiller les taux. Bien sûr, il savait pas trop où on irait, bien sûr, mais ça c'est pas nouveau, mais par contre on avait un petit peu l'impression que dans son ton, la couleur de son regard et peut-être un tout petit peu la couleur de sa cravate, eh bien on a commencé à comprendre que Monsieur Powell était plutôt notre ami, plutôt décontracté, pas encore de viche bien sûr, au quiche toujours un peu, mais l'un dans l'autre on commence à se dire que potentiellement eh bien le cycle de hausse des taux serait terminé. Oui, je n'ai pas peur de dire le mot terminé. A priori, c'est ce que tout le monde est en train de penser et de se dire que cette fois, eh bien, on va pouvoir se dire qu'on va peut-être rester peut-être longtemps entre 5,5 et 5,5 de taux d'intérêt sur les taux directeurs américains, mais que l'un dans l'autre, eh bien, les choses vont se calmer. Donc, cette bonne nouvelle a fait immédiatement se péter la figure aux 10 ans américains et donc, par effet de vaste communicant, eh bien, immédiatement, la tech est repartie comme en 40 et le S&P 500 est reparti également en tapant exactement le point qu'il devait taper dans la zone des 4150-4180. Il a pris appui là-dessus et résultat, on finit la semaine quasiment 200 points plus haut sur le S&P 500, tout en haut du range du canal descendant. Donc les gens étaient limite euphoriques en cette fin de semaine boursière et ça fait un moment que c'était pas arrivé. C'est vrai qu'on vient de se taper quand même 3 mois bien pourris, mais les 3 mois bien pourris sont derrière nous. Le Christmas Rally est devant nous. Vous pouvez commencer à décorer le sapin. C'est pour tout de suite. Si on revient sur le sujet des chiffres trimestriels, eh bien, ça continue à publier dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, cette semaine, en tous les cas, c'est que depuis, on va dire mardi, on a tendance à quand même prendre les chiffres un peu de manière différente. Hein. La semaine dernière, eh bien, on avait tendance à arriver en se disant, oui, alors, les chiffres, ils sont excellents, mais il a quand même été très prudent sur les prévisions futures et sur la guidance. Donc, on va déglinguer le titre de 10%. Et puis, depuis quelques jours, allez savoir pourquoi. Un courant, le changement de lune, je ne sais pas, un courant alpin, aucune idée. La météo peut-être, allez savoir. En tous les cas, eh bien, les gens ont changé de positionnement et on voit le verre à moitié vide cette fois, ce qui fait qu'on a eu des rebonds assez spectaculaires. Souvenez-vous d'AMD, parce que ça, il faut quand même le retenir cette semaine. AMD qui a sorti des chiffres en demi-teinte, d'une guidance en demi-teinte, mais qui derrière vient nous annoncer que, ah, du coup, du côté de l'intelligence artificielle, ça va plutôt pas mal. Résultat, le titre a fait moins 5% après la clôture et plus 10% le lendemain. Bref, un Muppet Show total. On voit vraiment que les gens, tout d'un coup, les investisseurs ont tourné un petit peu leur mindset un peu différemment. Comme d'habitude, hein, en fin de semaine dernière, enfin, je parle de vendredi, il y a 10 jours, on était au bord du gouffre, on se dit, ah, cette fois, c'est bon, on va à 3009 sur le S&P 500, c'est fini. Et puis, comme l'excès de négativisme et l'excès de peur fait toujours effet pour les contrariants, eh bien, finalement, le marché a rebondi. Et c'est un peu la même chose sur le résultat trimestriel, puisqu'on a vu des rebonds assez spectaculaires. Souvenez-vous, vendredi matin, je vous parlais des chiffres d'Apple qui n'étaient pas terribles, selon les analystes, parce qu'ils attendaient quand même beaucoup plus, même si Apple a fait quand même beaucoup mieux que ce qu'ils attendaient. Et puis finalement, le titre, eh bien, s'en sort relativement bien en fin de semaine. On voit que pour l'instant, il n'y a plus trop de vendeurs et les gens sont plutôt dans un mode achat opportunistique. Alors évidemment, dans cette tendance catastrophiste qui se transforme en tendance bullish et optimiste parce que Thanksgiving, parce que la fin de l'année, parce que les cadeaux de Noël, parce que le vin chaud, eh bien on a aussi évidemment des bonnes nouvelles du côté du 10 ans puisque le rendement du 10 ans s'est effondré et que tout d'un coup on se dit « Ah bah alors ça va, parce que si le 10 ans redescend à 4,5% de rendement, eh bien les gens ils vont se dire « Ah bah à ce niveau-là, je revends mes obligations, je rachète mes actions, parce qu'après tout, 3,5% de dividendes, plus le prospect de voir le marché exploser derrière, C'était plutôt encourageant, c'était plutôt positif. Voilà, donc résultat, le 10 ans se fait péter la figure, le Nasdaq repart dans l'autre sens. Ouais. C'est vraiment les vases communicants. Et puis alors, on a eu les chiffres de l'emploi en fin de semaine. Alors là, c'est un peu la cerise sur le gâteau finalement, parce que le marché attendait 170 000 créations d'emplois. Alors pour la petite histoire, ça fait juste 3 mois qu'on se fait balader à chaque fois, et puis qu'à chaque fois qu'on arrive, oui, je pense qu'on aura 180 000 créations d'emplois, bam, 300 000, et on se dit, ah bah l'emploi veut pas ralentir, l'économie veut pas ralentir, est-ce que réellement ce que fait la Fed, ça sert à quelque chose? Et puis alors, ce vendredi, eh bien, on attendait 170 000, on les ayant comme ça, en se disant, ouh là là, mais si ça sort de nouveau à 300 000, comment on va survivre? Je rappelle que le mois dernier, on est passé de 177 000 à 336 000, mais heureusement, on avait la croissance des salaires qui ralentissait, ce qui nous a sauvé les fesses, un tout petit peu quand même. Et là, on se disait, mais cette fois, comment on va faire? Eh bien, on va simplement sortir un chiffre en dessous des attentes. Hein. Donc, il y avait 170 000 créations d'emplois attendues, c'est sorti à 150 000. Résultat, on se dit, ah, mais c'est bien, parce que finalement, ce que fait la Fed est en train de fonctionner. Le marché de l'emploi ralentit. Donc, du coup, ce qu'a fait Monsieur Powell, c'est parfait. Il va nous garder les taux encore un petit peu élevés 3-4 mois. Puis quand il verra que le marché, l'économie est vraiment en train de ralentir à ce moment-là, eh bien, il va pouvoir baisser les taux. Bref, c'est un plan qui se déroule sans accroc. C'est un monde parfait. On a vraiment l'impression d'être dans un film de Disney, un film hollywoodien qui se termine bien avec les Américains et les bullish qui gagnent à la fin. Alors, cette nouvelle au niveau des chiffres de l'emploi est donc excellente. Hein, c'était vraiment très satisfaisant. Alors maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est que si ça continue à ralentir comme ça au niveau des chiffres de l'emploi, la prochaine étape, c'est d'intégrer le fait que potentiellement, on se dirige vers une récession. Pour l'instant, on n'en est pas là, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que vous verrez, un chiffre de l'emploi négatif, un deuxième chiffre de l'emploi négatif, un troisième chiffre de l'emploi négatif, et là on va commencer à me dire récession ou pas récession, si la Fed ne baisse pas les taux d'ici la fin de l'année, eh bien la récession sera parmi nous. Bref, on risque d'en reparler, mais néanmoins pour l'instant on va pas se gâcher le plaisir, on est en mode bull market, fin d'année, Christmas rally, allez c'est bon, champagne pour tout le monde, on va casser les résistances, la tendance baissière, le S&P retourne au plus haut. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Tom Lee. Du côté de la Suisse, on notera que les indicateurs, les chiffres économiques qui sont sortis cette semaine montrent que les petites et moyennes entreprises, les PME, sont en difficulté, souffrent en tous les cas du ralentissement du franc suisse, la force du franc plutôt. Et puis ça le fait aussi que toutes les exportations qui vont en direction de l'Europe souffrent du fait que l'Europe est en train de se traîner lamentablement. Donc pas des chiffres extraordinaires. Du coup, on a eu le CPI, l'inflation en Suisse qui était 1,7%. Alors bon, après, il faut nous interpréter l'inflation, parce qu'on voit quand même que quand on va faire les courses, on ressent quand même la différence, mais ça me paraît quand même un peu plus que 1,7% au niveau du concret. Mais forcément, ça dépend ce qu'on achète. Hein. Si vous achetez pas de bouffe, vous faites pas le plein. Comme d'habitude, ça devrait aller beaucoup mieux. Mais 1,7%, c'est quand même exceptionnel par rapport à ce qu'on entend ailleurs dans le reste du monde. Hein. On a toujours réussi à s'en sortir un petit peu mieux en Suisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, on a eu un des guignols de la BNS qui a parlé, Monsieur Martin Schlegel, qui est vice-président de la BNS, qui nous a quand même dit qu'il ne s'excluait pas la possibilité de monter les taux en fonction de si jamais l'inflation venait à repartir à la hausse, blablabla. Bla, bla. En gros, le même discours que nous ont balancé les banques centrales européennes, les banques centrales américaines, les banques centrales anglaises, simplement, il fait la même chose en Suisse, sauf que les taux d'inflation ne sont pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est pas grave, parce que depuis que Monsieur Jordan a annoncé cette semaine que la Suisse avait sauvé le monde d'une crise économique en massacrant le Crédit Suisse et en le donnant à l'UBS, eh bien on est sauvé parce qu'on a des génies qui dirigent la Banque Nationale Suisse. Merci à eux. Si l'on regarde les performances de la semaine, eh bien vous le voyez, un rebond massif un peu partout, dépression au niveau du pétrole, le pétrole qui se calme massivement cette semaine, tout simplement parce que il n'y a pas d'extension du conflit israélo-palestinien. Pour l'instant, ils se contentent de transformer Gaza en grand parking, et ça convient à tout le monde. Et donc du coup, pas d'extension du problème pétrole, enfin, du problème de la guerre, donc du problème pétrole. Résultat, on prend les profits. Le baril redescend massivement en direction de la moyenne mobile des 200 jours. D'ailleurs, il est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Attention à la suite de la correction. S'il n'y a pas de tension, de nouvelles tensions, ou allez savoir pourquoi, peut-être que la réserve stratégique américaine viendrait racheter un peu de pétrole. Mais pour l'instant, plutôt en downtrend. De l'autre côté, eh bien, le Dow Jones, les semi-conducteurs, le Nasdaq, vous le voyez, 7% sur le Dow, 7% sur le SOX, 6,6% sur le Nasdaq, c'est l'explosion, 5,9% quasiment sur le S&P 500, et puis le reste, ça suit, hein, l'Europe, l'Italie, plus 5, le Brésil, plus 4,29, l'Espagne, plus 4,20, la France, plus 3,70, le DAX, plus 3,40, et puis la Suisse qui se traîne toujours, parce que forcément, nous, en Suisse, on n'a pas vraiment des titres sexy dans ce genre d'environnement. Si on avait des fabricants de semi-conducteurs, Twitter ou bien alors des gros leaders qui font partie des Magnificent Seven, ça irait mieux, mais c'est pas le cas. Donc la Suisse se traîne avec une hausse de seulement de 48%, et quand on voit ce qu'elle s'est pris dans la tête le mois dernier, on peut être un tout petit peu déçu. Et le Bitcoin continue à se stabiliser autour des 34 000 et des poussières, alors que tout le monde est en train de spéculer sur l'arrivée imminente, logique et obligatoire de l'ETF de BlackRock. Le SMI justement, donc Geberit qui a fait un carton sur les chiffres, Sonova qui a fait un carton sur ces chiffres, on va y revenir tout à l'heure, un rebond du luxe sur Richemont, et puis de l'autre côté, Swisscom qui a foiré ses chiffres, qui baisse de quasiment 4%, c'est bien fait, de toute façon c'est beaucoup trop cher ce qu'ils nous facturent pour nos factures téléphone. Bref, peu importe, vous le savez, j'aime pas Swisscom, et Swisscom a raté son trimestre, alors il y a toujours le dividende qui est intéressant, mais le titre est toujours, le titre est toujours relativement déprimant, on va en reparler tout de suite. D'un point de vue technique, vous le voyez, le SMI, après avoir cassé sa tendance horizontale, enfin d'ascension depuis le début de septembre l'année passée, eh bien, on est en train de tenter le rebond, mais comme je vous le disais, c'est difficile. Alors, on n'a pas réussi à combler le gap qu'on a laissé ici. Donc, pour l'instant, le SMI est toujours dans une sale position. Vous voyez le gap ici. Il va falloir qu'on remonte maintenant, en tout cas, jusqu'aux 11 000 pour qu'on commence à parler sérieusement de quelque chose de sympa. Et ça dépendra pas forcément de nous. Encore une fois, nous, on a un gros problème à l'intérieur de l'indice, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de sexy pour nous permettre de remonter. Maintenant, si on vient à revenir sur les 11 000, eh bien tout de suite on va devoir se poser la question sur cette tendance baissière. Est-ce qu'on arrive à la casser? Bon, là on a encore un petit peu de marge de manœuvre, hein, on en reparlera dans 700 points, mais pour l'instant pas grand chose à dire sur la Suisse, si ce n'est que c'est extrêmement et déprimant sur le graphique et au niveau du trading. Le CAC 40 qui rebondit aussi massivement comme tout le reste des indices. Alors le CAC 40, vous voyez qu'on est toujours dans notre canal descendant sur le CAC 40, on a bien réussi à remonter, mais par contre, eh bien là on arrive tout de suite en fin de semaine à buter sur la moyenne mobile des 200 jours. Là aussi il va falloir casser pour aller chercher les 7200 sur le CAC 40, et là on pourra effectivement commencer à parler de cassure de la tendance descendante sur le marché français. Du côté des USA, vous le voyez, alors je m'excuse, j'ai une panne avec mes charts dynamiques parce qu'apparemment la tempête d'or a fait sauter le wifi, donc je n'ai plus de wifi. Résultat, alors on repart sur un truc un peu moins dynamique, et bien vous voyez que le S&P 500 a donc tapé là où il devait taper, la zone des 4150, 4180, avec un rebond spectaculaire. Il a tout enfoncé en quelques séances. Et on revient, on commence donc la semaine qui va nous arriver à partir de demain avec une résistance dans la zone des 4360 qui correspond au trend descendant sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, eh bien, c'est pareil. Hein, vous voyez cette espèce de wedge descendant dans lequel on était. On a rebondi pile poil sur la moyenne mobile des 200 jours et on revient immédiatement l'espace de 4 séances là aussi en train de tester les 15100. Il va falloir traverser ça à la hausse pour que l'on puisse parler de retour potentiel déjà au plus haut du mois de juillet, puis éventuellement au plus haut de l'année. Il y a encore des gens qui sont extrêmement bullish. Il va quand même falloir un petit peu plus que ça pour générer un peu de dynamisme ces prochains jours, mais en tous les cas, les charts sont spectaculaires du côté des États-Unis, et c'est pas le dernier. Et puisque là, on a le SOX, vous voyez le SOX, alors lui, c'est impressionnant là aussi. À un moment donné, on a eu quand même toute une série de boîtes qui ont publié des résultats pourris sur les semi-conducteurs, et puis tout d'un coup, en début de semaine, on a eu Qualcomm qui sort des bons chiffres, AMD qui explose, et tout le reste qui suit derrière, et puis finalement, vous avez un rebond, mais vraiment impressionnant sur le SOX. Là aussi, il va falloir confirmer. Vous voyez qu'on a toujours une espèce de trend descendant dans lequel on est. Malheureusement, je peux pas dessiner aujourd'hui, mais en tous les cas, on est dans un rebond assez spectaculaire sur le SOX, qui est plutôt une bonne nouvelle à l'heure actuelle. Pour les titres de la semaine en Suisse, alors vous voyez normalement les charts qui s'affichent devant vous pour l'instant. Désolé, toujours des problèmes techniques aujourd'hui. Chez Straumann, le fournisseur d'implants et de dispositifs, tout ce qui est chirurgie dentaire, alors ils ont annoncé une très bonne résistance sur le troisième trimestre. Alors malgré l'inflation, eh bien les Balois, ils ont réussi à générer en tout cas une belle croissance organique supérieure à 10%. Le titre a explosé sur la nouvelle. Du côté chocolat, sur le marché plus large en Suisse, eh bien Barry Callebaut a montré des objectifs à moyen terme qui étaient plutôt positifs. Ils ont changé de patron, changé de CFO, et puis les résultats annuels s'estiment plutôt bien positionné. Bref, des commentaires relativement positifs. Résultat, là aussi, le titre prenait 4,9% sur l'annonce. On continue toujours avec des bonnes nouvelles du côté de Gurit. Alors, Gurit, eux, ils ont chopé un énorme contrat dans le secteur éolien. Alors, un énorme contrat, on va relativiser par rapport aux chiffres d'Apple, mais 375 millions de francs suisses. Néanmoins, c'était une bonne nouvelle. Le titre bondissait de 7,7%. Et puis, autrement, on notera encore Swisscom. Alors, Swisscom, c'est un peu le vilain petit canard de la semaine, puisque Swisscom se sont effondrés lors de la publication des résultats. Ils ont réduit leurs prévisions de revenus pour 2023 à cause de la force du franc suisse et la baisse des ventes de matériel en Suisse. Il faut peut-être commencer à se poser des questions sur ce qu'on facture à ses clients, mais bon, ça, c'est une autre thématique. Et puis, autrement, ils prévoient désormais des revenus de 11 milliards par année, alors qu'avant, ils attendaient plutôt entre 11,1 milliards et 11,2. Donc ce gros changement n'a pas du tout plu au marché qui a littéralement lâché les actions suisses, mais l'un dans l'autre, on s'en sort encore relativement bien. Du côté de la construction, enfin, des bons chiffres chez Geberit qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Grosso modo, au troisième trimestre, on a vu que les ventes avaient le revenu net, avait augmenté à 147,8 millions. Et puis, les ventes ont un petit peu diminué, mais bon, c'est bonne nouvelle, on voit que ça allait un tout petit peu mieux. Ils s'attendent tout de même à une baisse du chiffre d'affaires sur les produits sanitaires, mais l'un dans l'autre, ils s'en sortaient plutôt pas mal, on va dire que les résultats étaient plutôt bien. En tous les cas, le marché l'a bien pris, puisque l'action terminait en hausse de 8,8% sur la journée de publication. Et puis, du côté de Swiss Re, là aussi, séance dans le rouge chez Swiss Re, après des publications sur 9 mois qui étaient beauf, mais néanmoins, c'est quand même un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars contre une perte de 285 millions de dollars un an plus tôt. On peut comprendre les variations, mais l'un dans l'autre, on considérera, en tout cas ce qui a été signalé dans le marché, c'est que les chiffres étaient plutôt sans surprise. Résultat, le titre ne faisait pas grand chose. Donc ce que l'on doit retenir finalement de cette semaine, c'est qu'on est dans un marché qui se pose beaucoup de questions, mais qui a bien respiré, qui a pris une grande bouffée d'oxygène en cours de semaine et qui termine relativement bien. Même la Suisse, alors la Suisse, on l'a vu sur le graphique avant, on est dans une sale position parce que finalement on est au bord, on n'arrive pas à remonter, on a encore un bon bout de chemin à faire pour revenir dans une tendance haussière. On voit aussi que le reste des indices, eh bien, sont bien remontés, mais restent aussi dans des tendances négatives. Il va falloir continuer à sortir des choses positives en tous les cas. On l'a vu sur les chiffres, typiquement les chiffres d'Apple, que finalement l'interprétation a un petit peu changé. On arrive en fin de phase de publication des chiffres trimestriels. Donc les choses devraient plutôt se décanter dans le bon sens. On espère, en tous les cas, il ne devrait plus y avoir de mauvaises surprises parce qu'il n'y a pas de grand nom. On attendra quand même les chiffres de Nvidia qui sortent ce soir le 21 novembre pour commencer à dire la saison est terminée, on peut commencer à respirer et à parler d'autre chose. Et l'autre chose, ce sera bien évidemment le Christmas Rally. On va inévitablement parler beaucoup de conflits, puisqu'il y a toujours le conflit israélo-palestinien en ce moment. Mais pour l'instant, on a l'air de l'avoir mis de côté très clairement. Ce qu'on voit, ce que le marché interprète pour l'instant, c'est que tant que les Iraniens s'en mêlent pas, ou tant qu'il n'y a pas un développement massif de la guerre ailleurs, bon, on a vu que les Israéliens étaient en train de bombarder le Liban maintenant parce qu'ils s'en prennent avec le Hezbollah. Donc ça risque de créer un peu de tension, mais pour l'instant, c'est juste des terroristes qui se font massacrer par les Israéliens. Donc ça va. Et puis, ben, pour l'instant, on va continuer à surfer sur la vague et à voir comment ça continue tout ça ces prochains jours. On repart dans un nouveau mois complet, cette fois, mois de novembre. Mois de novembre, on va parler Black Friday, on va parler Thanksgiving à la fin du mois. On arrive gentiment, effectivement, sur les fêtes de fin d'année. Donc, on espère qu'on est vraiment parti dans ce train de Christmas Rally. Néanmoins, pour aller chercher les plus hauts du mois de juillet ou les plus hauts, voire définitifs des marchés dans leur globalité, il y a encore un sacré boulot. Parce que l'optimisme n'est pas encore là. Les indices Greed and Fear sont toujours un peu plutôt sur le côté j'ai les jetons plus qu'autre chose. Donc on va reprendre ça petit à petit. Et désolé pour les problèmes techniques d'aujourd'hui, ça sera réglé la semaine prochaine, mais c'est les impondérables de la météo visiblement. Merci monsieur Elon Musk, encore une fois ça fonctionne super bien, Starlink, bravo, ouhou, youpi, big up. Et puis moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, et on se retrouve bien sûr demain matin, lundi, pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un excellent dimanche et puis, eh bien, à demain. Bye bye.